appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi, au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous. Parole aux auditeurs aujourd'hui s'intéresse au projet de loi sur la restructuration de la Commission électorale nationale indépendante. Les préoccupations majeures qui suscitent le débat autour de ce projet de loi sont des désordres, à savoir les projets du gouvernement qui prévoit deux représentants de la société civile, alors que l'opposition et les organisations de la société civile réclament 8 représentants et font un plaidoyer sur l'installation d'une plénière, organe capable de contrôler le bureau. La question au cœur du débat dans cette émission, selon vous, cette réforme est-elle pertinente et qu'est-ce qu'elle vous inspire? Pour participer à cet échange et partage de près de 57 minutes, composez les 081 890 63 15 et rejoignez-nous aussi à notre courriel pa@radiocapi.net. Merci à Pierrot et la Mégie qui se chargent du standard. Merci également à Titi Poutou qui réalise ses programmes, mis en onde par Guy Manzangou, une émission présentée et coordonnée par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Gaka. Excellente conditions d'écoute à tous.
C'est parce que Radio Capitaine et le Congo que vous êtes concernés par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Il faut d'abord signaler qu'à la lumière de son exposé des motifs, le projet de loi portant restructuration de la Commission électorale nationale indépendante est destiné à améliorer notamment les cadres d'organisation des scrutins en République démocratique du Congo. Nous avons en ligne professeur Emmanuel Kasongo, spécialiste des questions électorales. Bonjour professeur.
Bonjour.
D'entrée de jeu, professeur, cette réforme est-elle pertinente?
Oui, mais au vu de toutes les observations qu'il y a eu au cours des élections dernières, il y a possibilité de croire qu'il était nécessaire d'introduire une réforme au niveau de la loi électorale, parce que c'est une expérience à la deuxième, une première et deuxième expérience, et il ne faut pas aller à la troisième expérience ou l'élection locale avec le même perspective qu'on a eu au deux premiers tours. C'est toujours ça, l'œuvre humaine est perfectible, donc il faut c'était opportun de penser à cette réforme avant d'aller plus loin.
Oui, ben aujourd'hui, les préoccupations majeures qui suscitent d'ailleurs le débat autour de ce projet tournent autour de la proposition des uns et des autres. Donc, le projet du gouvernement prévoit deux représentants de la société civile, alors que l'opposition et les organisations de la société civile réclament 8 représentants.
Mais ceux qui ont réclamé, ils ont motivé leur cet effectif. Et ceux qui ont réclamé, oui, c'est autre aussi des raisons, mais... Pour dire quoi? Oui, pour dire que la société civile doit piloter ou bien doit être majoritaire au niveau du sommet stratégique de la commission électorale. Moi, je pense que de temps en temps, il faut que les uns et les autres mettent les vins de l'eau dans l'air vert pour qu'on aille de l'avant, c'est ça.
Alors, il y a certains qui jugent normalement ce projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 d'être antidémocratique, de dirigiste, de lacunaire. Ben, est-ce que vous, en tant que spécialiste des questions électorales, quelle lecture faites-vous par rapport à ça?
Mais c'est difficile de juger le comportement des hommes à partir d'un texte. Je crois que le texte de loi fixe les principes de base et ce sont les hommes qui mettent ces principes en pratique qui doivent être jugés à l'acte. Je ne pense pas qu'on puisse se prononcer sur l'impartialité de la loi ou pas à ce stade. Hein? On peut faire ce que les Anglais appellent les wait and see. Je pense que c'est tôt d'avoir des appréhensions pareilles. Mais il faut vous dire que personnellement, je n'ai pas lu les deux proposition de loi pour me prononcer de manière objective. Je pense que à ce stade, l'essentiel, c'est qu'on puisse obtenir ce congé. Est-ce qu'on veut la réforme de la loi? Oui. Bon, quant à juger de la faute de cette loi d'éclairer l'avenir, moi, je pense que c'est très tôt.
Oui, mais est-ce qu'il y a un standard universel quant à la composition, disons, de la composition du bureau de la CENI, par exemple?
Bon, il faut peut-être parcourir les commissions électorales des autres pays pour voir comment ça se compose, mais je crois qu'il n'y a pas de standard. Chaque pays tient compte de ses réalités, de présenter en présence.
Voilà, donc le projet de loi devait également, comme l'ont souhaité certains députés et autres observateurs, tenir compte des problèmes liés au pays.
Oui, mais est-ce que la question, c'est de savoir est-ce qu'on n'en a pas tenu compte. Est-ce que ces deux propositions, la proposition et le projet de loi sont-elles vraiment tombées du ciel? Je ne pense pas. Je crois qu'on peut trouver toujours quelque chose d'important dans la proposition ou dans les projets, je ne sais pas.
Voilà, pour vous rafraîchir la mémoire, professeur, le projet introduit, entre autres, des dispositions qui visent une plus grande maîtrise du processus électoral et le renforcement des bases de sa crédibilité, à savoir son indépendance, son impartialité, l'intégrité de ses membres et leur sens des responsabilités, son accessibilité, son professionnalisme et son efficacité. Il prévoit donc 11 membres dans les bureaux de la CENI, dont 2 représentants de la société civile. Donc voilà un peu comment ça se présente, ce projet.
Oui, mais si cette loi vient corriger la loi en vigueur, moi je pense que c'est positif, il faut y croire. Il ne faut pas à ce stade commencer déjà à discuter sur l'avenir alors qu'on n'a même pas encore mis en pratique. Parce que je vous ai dit au départ qu'une loi est un texte écrit par des hommes, mais son interprétation par ces mêmes hommes et sa mise en application dépend des contextes et des moments de présenter en présence des faits sociaux. Donc, comme vous avez dit, de la qualité des membres qui vont être désignés à chaque fonction prévue par cette loi.
Voilà, merci à vous tous. Vous vous êtes fait inscrit pour participer à cette émission depuis hier autour de ce débat. Nous avons en ligne déjà Al Hadji qui nous appelle de Beni. Cosma, c'est à Kisangani. Mais nous vous rappelons, chers auditeurs, vous pouvez également nous rejoindre au 081 890 63 15.
Parole aux auditeurs.
Al Hadji, vous êtes à Beni. Bonjour et bienvenue.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Alors, selon vous, cette réforme est-elle pertinente et qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Oui, d'abord, je vois qu'on peut d'abord chanter le comité de la CENI parce qu'il y a...
Oui, allez-y, on vous suit, on vous écoute.
Allô?
Voilà, on a un petit souci là avec Al Hadji. On prend d'abord Cosma qui est à Kisangani. Bonjour Cosma. Cosma, bonjour.
Bonjour.
Oui, alors selon vous, cette réforme est-elle pertinente et qu'est-ce qu'elle vous inspire?
Bon, écoutez, la population congolaise s'attendait plus à la réforme. Et surtout, c'est qu'il y a eu plusieurs propositions des observateurs internationaux qui nous ont émis aussi leur voix, sinon il fallait la restructuration de la CENI, et ainsi de suite. Vous savez, tout le monde est en train d'attendre ça. Mais je vois que c'était rendez-vous manqué. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant les problèmes de l'animus. Il y a l'erreur au niveau de l'originalité de ce projet. Et aussi la composition des membres de la CENI dont propose ce projet-là. Alors, au niveau de l'originalité, qu'est-ce que j'allais dire? Les gens qui allaient encore donner les projets de la CENI, le gouvernement, s'il y avait des gens qui étaient au moins honnêtes, ils allaient appeler tous les groupes actifs du pays pour qu'ils se mettent ensemble et donner encore un projet qui sera soumis à l'Assemblée nationale. Écoutez, c'est vous qui êtes trop mal répéter hier, et aujourd'hui c'est vous qui dites encore, non écoutez, je vais encore faire une bonne chose, et attendez maintenant ce que je donne comme projet. Qui peut avoir foi de ça? Alors, c'est quoi? Les gens, le gouvernement allait convoquer les gens de la religion. Par exemple, les centres cartels, les gens de l'église catholique, et la société civile, pour maintenant l'élaboration de ce projet-là, afin qu'on puisse savoir quelles étaient les failles et pourquoi on ne peut pas encore arriver à de tels problèmes. Mais ce sont les mêmes personnes qui nous viennent avec les mêmes textes. Écoutez, voilà ce que nous avons maintenant prévu, alors que c'est vous qui êtes au moins très mal répété pendant les effets qui étaient passés ici chez nous au Congo. Je crois qu'il y a le problème de l'originalité. Et on n'a pas tellement confiance à ce projet. Vous allez vous souvenir la proposition de l'honorable de l'opposition qui était rejetée. C'était une très bonne proposition. Mais malheureusement, ça n'a pas été tenu parce que il n'est pas de la majorité. Enfin, il y a l'animus, la volonté d'abord de ceux qui sont en train de diriger, de faire sortir le Congo dans les chaos qui étaient passés le 28 novembre. Donc là, en tout cas, c'était rendez-vous manqué. Par rapport à la composition de la CENI, qu'est-ce que j'allais dire? Vous voyez que non, cette composition n'est pas aussi tellement bonne. Ce sont les gens de l'opposition et de la majorité qui composent aussi la CENI qui est actuelle, d'ailleurs qui a failli au niveau du 28 novembre. Et vous amenez encore ces mêmes gens-là, les attendre pour qu'ils puissent encore proposer d'autres personnes qui vont continuer, soit à bouffer l'argent ou à amener le Congo dans les nerfs comme les histoires qui étaient passées la fois dernière. Alors, ils allaient, parce que cela aussi allait émaner même de la niveau de la population, parce que quand les gens de la société civile étaient là, et les gens de l'église catholique étaient aussi là-bas, et d'autres compositions ici nationales, et chacun allait donner ses idées sur la composition de la CENI. Parce que, d'après moi, nous, je vois que la société civile n'est pas tellement représentée dans cette CENI. Pourquoi? Parce que vous me dites ici, il y a deux membres ou un seul membre, je ne sais pas. Et alors, ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent avoir quand même l'opportunité de contredire ce qui est dit parmi les gens ou bien à l'ensemble des gens de l'opposition ou de la majorité? Je crois que c'est toujours des coqs à l'âne et c'est le même problème que nous allons toujours assister. Donc, d'après moi, les gens de la CENI auraient été plus composés de la membre, ou bien, je dis, des membres de
la société civile.
Que des membres des partis politiques, parce que les partis politiques sont des délégués, les membres là, sont des délégués de leur parti, et il ne faut qu'assouplir la volonté de leur dirigeant, des gens qui leur avaient donné la volonté ou des mandats. Au niveau de la société civile allait tenir les critères pour recruter les membres qui iront les présenter au niveau de la CENI. Parce que les critères, ce n'est pas se partager. D'ailleurs, à peine on vient de suivre ici à la radio Capitale Informatique, non? Et il y a les membres de la société civile, un groupe de société civile qui appelle les autres à signer afin de poursuivre les projets qui sont au niveau de l'Assemblée. Parce qu'ils étaient tellement oubliés. Alors, ils allaient signer et avoir. Après moi, si il y a toujours 11 membres qui peuvent composer la CENI, alors, sur 11 là, j'allais proposer 5 venant de la société civile et les autres postes peuvent être partagés par les gens des partis politiques, il n'y a pas grand-chose. Mais comme cela n'a pas été fait, monsieur J.R., je vous dis, c'est toujours de larmes à larmes. D'ailleurs, on vient d'éclairer les larmes ici qui étaient coulées comme de l'eau. Mais je crois que les larmes qu'on va pleurer soit prochainement.
Voilà, Cosmo, si je comprends bien, vous partagez l'avis, et d'ailleurs d'un des députés qui a demandé la parole dans le débat qui a été engagé au niveau de l'Assemblée nationale, et qui a proposé une forte représentation de la société civile, ben voilà, qui sont allés même à proposer sur les 11 membres tels que prévus dans le projet de loi qui pourrait constituer le bureau de la CENI, qui est au moins 8 membres de la société civile. Et donc, vous partagez cet avis. Merci, Cosma, d'avoir appelé. Confiance, oui. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Confiance.
Ah, bonjour, Gilles Longuembo. Bonjour à l'invité. Bonjour à tous les okapistes qui nous
sont sur la radio de la paix. Est-ce que vous partagez l'avis comme vient de le faire votre ami Cosma, voilà, qui dit que c'est un rendez-vous manqué, d'autant plus que les points de vue sont divergents, hein, surtout quant à la composition de membres du bureau sur les 11 que prévoit le bureau, le projet. Le gouvernement propose qu'il y ait au moins deux représentants de la société civile, tandis que l'opposition demande ou réclame huit postes pour la société civile.
Oui, j'aborderai dans le même sens que Cosma, mais pour répondre à la question directement qui a été posée sur antenne, moi j'ai trouvé au moins une réponse mitigée. Donc je dirais oui et je dirais non. Pourquoi? Parce que la réforme de la CENI est pertinente pour le moment, comme on l'a souligné, et la loi aussi, parce que c'est la loi qui en est la génitrice. Et le fonctionnement de la CENI qui a été catastrophique est à la base de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Moi, je pense que s'il doit y avoir restructuration, mais elle doit être faite d'une manière impersonnelle. On doit éviter qu'elle soit taillée sur mesure, comme la plupart des lois votées depuis la dernière législature, dirigée par la majorité présidentielle, qui est en réalité une caisse de résonance ou une machine de oui-ouiste, qui a pour objectif la pérennisation au pouvoir des hommes forts au pouvoir, au lieu d'avoir des institutions forte ou de loi forte. Non parce que c'est fait dans la précipitation, parce que c'est ce que nous avons aujourd'hui. Elle s'est fait, j'avais dit oui avant, maintenant j'ai dit non, pourquoi? Parce que ce que nous sommes en train de voir maintenant est en train de se faire dans la précipitation à cause de l'exigence pour répondre à un ordre extérieur reçu lié à une tenue de la francophonie. La célérité avec laquelle ce sujet est traité actuellement prouve à suffisance que c'est fait dans le but de plaire aux yeux d'une catégorie de gens. Parce que lorsqu'on a demandé, lorsqu'on a réclamé à corps et à cri, dans l'objectivité, cela n'a pas été urgent. Aujourd'hui, aussi longtemps qu'on vient même de perdre plusieurs mois liés au fonctionnement et à l'exécution du calendrier électoral pour le reste du processus, il est mieux de prendre sans hésiter la proposition de l'opposition, qui, elle, est objectif plutôt, impersonnel, sécurisable, et puis impartial, logique, pérenne, inclusive surtout, conciliante, transparente. Nous avons échoué avec l'application des lois votées par la coterie présidentielle de la législature passée, par honnêteté. Acceptons intellectuellement, acceptons loyalement l'échec et essayons une nouvelle proposition, malgré le fait qu'elle vienne des gens qu'on a toujours reproché le manque de propositions. Aujourd'hui, ces gens qu'on reproche de ne jamais avoir des propositions, ils ont fait une proposition que tout le monde sait voir qu'elle est bonne.
Oui, confiance. Restons un peu dans le contenu de ce projet, parce qu'au niveau de projet proposé par le gouvernement, il y a donc, mis à part cette divergence autour de nombres que doit contenir normalement les membres du bureau, le gouvernement qui propose deux membres de la société civile, tandis que l'opposition va jusqu'à réclamer huit personnes. Ben alors, il y a, au-delà de cela, il y a ce que nous appelons comme un plaidoyer sur l'installation d'une plénière, organe capable de contrôler les bureaux qui n'existait pas donc avant la législature passée. Que vous inspire cette proposition?
Où est-ce que nous avons échoué avec la proposition sans plénière? Acceptons la proposition avec plénière, parce que du moins elle permettra, excusez-moi le mot, la contrôlabilité du bureau. Parce que le bureau avait le pouvoir extrêmement large de faire tout ce qu'on pouvait sans être contrôlé. Il faut qu'il y ait quand même une autre structure qui contrôle, que les gens soient capables de répondre de leurs actes à une autre institution ou à un audit, par exemple. Un truc comme ça, ça rendrait les choses.
Merci beaucoup, Confiance, d'avoir appelé de Kinshasa. Deli, vous êtes à Kananga. Bonjour, Deli.
Oui, bonjour, c'est Deli Kamwanga à Kananga, oui.
Voilà, Deli Kamwanga, oui. Selon vous, cette réforme est-elle pertinente?
Oui, moi, cette réforme ne m'inspire pas du fait que, par exemple, la proposition du député au conduit sur la réforme de la CENI a été vraiment rejetée. Mais cela, je trouve que non, ça entre vraiment en contradiction avec le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui consacre le principe de l'antériorité. Et selon ce principe-là, comme la proposition du député au coup était déposée en avance, on pouvait accepter la proposition et retenir les projets des lois du gouvernement comme étant un document de référence. Mais je suis en train de trouver que non, le gouvernement, voilà, l'Assemblée nationale est constituée comme je l'avais autrefois écouté sur votre chaîne dans une tribune de la presse, une tribune de presse. En tant que non, l'Assemblée nationale est considérée comme étant une église de réveil où on accepte, on dit amen à n'importe quoi, parce que je trouve que le projet de loi accepté par l'Assemblée nationale est constitué par exemple d'une machination. Vous voulez juste manipuler encore les élections législatives pour se dérouler. Donc de toute façon, moi je ne suis pas vraiment contre avec la proposition, voilà, les projets de loi.
Donc ce projet ne vous inspire pas confiance. Si je comprends bien, Deli, ces projets ne vous inspirent pas confiance.
Ouais, c'est ça.
Merci beaucoup, Deli. Nous prenons Maurice qui est à Kinshasa. Maurice, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour, JR.
Voilà, selon vous, est-ce que cette réforme est vraiment pertinente?
Oui, je pense que avant même que je puisse répondre à votre question, il faudra signaler que aujourd'hui, même les gens qui ont soutenu, ceux qui ont reçu en pompe et applaudi M. Ngoï Moulunda lors de sa présentation de son rapport à l'Assemblée nationale, s'accordent avec même l'opposition pour dire que la cohésion nationale est menacée dans ce pays. Elle est vraiment totalement brisée. Il faudra vraiment revoir les choses. Les raisons pour lesquelles ils ont évoqué ces problèmes de la restructuration de la CEDI. Bon, restructurer, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas vraiment un préalable. Il faut commencer d'abord par le départ. Parce qu'aujourd'hui, on peut restructurer, mais on n'arrivera pas à résoudre les problèmes. Le problème, c'est quoi? Pour moi, je considère que avant qu'on pense à la restructuration, il faudra mettre en place une commission vérité et réconciliation. C'est à travers cette commission qui va travailler, qui va aussi nous amener à la restructuration de la CENI. Parce qu'on estime aujourd'hui, c'est un secret des polichinelles, que les problèmes qui fait que la cohésion nationale aujourd'hui soit menacée, c'est entre Kabila et Tshisekedi. Beaucoup de gens aujourd'hui, la majorité, estiment que c'est Tshisekedi qui a gagné les élections et qu'il faudra vraiment lui réhabiliter dans ses droits. Alors, si aujourd'hui on fait une restructuration sans associer d'abord l'acteur principal, vous ne voyez pas que vous êtes en train vraiment de déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre? Alors, c'est sur cette ligne d'idée que je voudrais dire ceci. Ici, il faudra penser d'abord à mettre en place cette institution qui va au moins réconcilier d'abord les acteurs politiques qui sont vraiment victimes de cette situation. Après, penser maintenant à la restructuration. Maintenant, parler du projet de ces lois proposées par plutôt le gouvernement. Je pense qu'il y a déjà des intentions malveillantes dans ces projets de loi, dans la mesure où il y a même déjà des propositions, même sur la composition. Pourquoi ne pas laisser cette proposition d'Emery Okundji, ou bien faire ça dans la même conception avec les projets instituant les droits de l'homme, là, où il y a quand même cette liberté, la société civile et d'autres forces actives de la société qui peuvent au moins proposer et étudier des mécanismes de propositions de leurs membres pour essayer un peu de mettre cette structure en place. Donc voilà, c'est par cette manière que je voudrais d'abord essayer un peu de...
Voilà, donc nous retenons que vous plaidez pour la cohésion nationale. Pour y arriver, il faut qu'on mette sur pied une commission vérité et conciliation comme préalable avant qu'on parle de la réforme qui, selon vous, donc n'est pas un préalable, c'est pas une priorité. Donc il fallait commencer d'abord par l'installation d'une commission vérité et conciliation pour vider les problèmes qu'ont connu les élections donc de 2011. Merci beaucoup Maurice. Nous tournons du côté de notre invité Kasongo, Emmanuel, professeur Emmanuel Kasongo, spécialiste des questions électorales. Vous avez suivi les uns et les autres, vous avez sûrement retenu pas mal de préoccupations. Alors selon vous, quelle analyse faites-vous par rapport à toutes ces réactions?
Oui, merci beaucoup. J'ai suivi les uns et les autres. Mais je vois là qu'il y a plusieurs logiques dans les raisonnements. Il y en a qui ont tendance à confondre effectif et partialité. une organisation n'est pas partiale ou impartiale, pardon, par rapport au nombre des acteurs qui la composent, mais c'est par rapport à la qualité et à l'impartialité de ces acteurs. Aujourd'hui, la société civile, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais cette société civile est en train de se politiser de plus en plus. Donc qu'on en mette 8, qu'on en mette 2, qu'on en mette 4, je crois que la CENI ne devient pas un organe politique. La CENI, c'est un organe technique qui dépend en principe dans des conditions normales qui dépendaient du ministère de l'Intérieur. Et donc à ce stade-là, la matière abordée par la CENI est une matière essentiellement technique qui n'a pas un caractère politique. Mais je vois que les gens veulent prendre la transposition des clivages qui se trouvent au Parlement, opposition pouvoir, pour l'amener au niveau de la CENI. Je crois que les membres, les directoires de la CENI est là pour faire observer une loi, pour faire respecter une loi dont l'application ne n'est pas seulement du directoire. Donc tous ces gens qui sont appelés à travailler dans les bureaux de vote, dans les centres de compilation, doivent le faire dans le respect de cette loi. Et le directoire de la CENI devient cette technostructure qui surveille l'application administrative de tous ces principes. Mais y amener des débats politiques et voir tout dans la dialectique opposition-pouvoir, je pense que c'est dans le sens vraiment, pas inverse, mais plutôt prendre une direction qui nous éloigne de l'analyse du rôle effectif de la commission électorale indépendante. Et donc, je suis persuadé que moi, le débat va avoir lieu et que la proposition la meilleure sera retenue. Et nous attendons l'entrée de cette société civile qui est du reste très plurielle. Hein, on ne sait pas comment ils vont désigner leurs représentants. Il y en a qui ont parlé de qu'il fallait avoir au préalable un processus autour de ces représentants ou quoi. Je crois que nous sommes là dans une phase qui nous amène de plus en plus vers la fin de la transition. En fait, on est des États en transition, bien sûr, mais la transition politique, au sens du mot, a pris fin. Nous avons un Parlement élu, nous avons les députés du pouvoir et de l'opposition, et donc qui représentent le peuple dans son entièreté, y compris la société civile. Et donc, si la proposition est discutée au niveau de l'Assemblée nationale, Il n'est plus, à mon avis, nécessaire de regretter l'absence d'une certaine un consensus qui devait se dégager ou une certaine conférence nationale autour de ou un forum national autour de ça. Parce que les députés, ils ont été élus par ce même peuple qui allait déléguer les gens pour proposer au cours d'un forum les représentants.
Professeur Emmanuel, il y a Deli de Kananga qui parlait de l'antériorité quant au dépôt de ce projet, qu'il faille d'abord privilégier le projet qui a été déposé au Parlement avant, donc celui de député de l'honorable Emery Okundji. Et quel commentaire faites-vous par rapport à ça?
Bon, moi je pense qu'il doit y avoir... Ça, c'est une matière qui relève vraiment de l'accumulation effective du droit parlementaire ou de la procédure parlementaire. Je pense qu'il y a une nuance qu'il faut faire entre antériorité et priorité. Hein? Je pense qu'il faut aller chercher
le dictionnaire.
La réponse vers là, oui. Entre antériorité et priorité. Oui, ça existe, donc une maîtrise.
Voilà, et vous, en tant que spécialiste des questions électorales, par rapport à cette question aujourd'hui, c'est vrai, on s'est retrouvé en face de deux projets, l'un déposé avant et l'autre après. Est-ce qu'il fallait privilégier par rapport, je sais pas moi, à la priorité ou par rapport à l'intériorité?
Bon, vraiment, honnêtement, je n'ai pas assimilé cette partie de la procédure parlementaire. Je crois qu'il faut retourner au règlement d'ordre intérieur pour voir...
C'est parce que le règlement parle de l'antériorité, donc on privilégie l'antériorité.
Bon, je pense que si c'est cela, donc il y a tout à ce niveau.
Voilà, il y a également Maurice de Kinshasa qui a parlé de l'installation d'une commission vérité et conciliation comme préalable avant d'aller à la réforme de ou à la restructuration de bureau de la CENI.
Oui, dans les propos de Maurice, j'ai senti le souci pour lui de revenir au résultat des élections présidentielles. Et donc, à son avis, il parle sans vouloir trop dire ce qu'il voulait dire. Je pense qu'il revient à ses problèmes de résultats. Il a parlé de réhabiliter les victimes. Bon, je crois que le processus a évolué jusqu'à ce stade. Je me demande si pour parachever le processus électoral et voir l'avenir des élections, il faut toujours attendre. Je crois que la réforme a été nécessitée par les failles des derniers scrutins. Et donc, comme on dit, on va le faire quand il est chaud. C'est le moment où les gens ont encore la mémoire fraîche, qu'on puisse mettre les bouchées doux pour initier cette réforme, pour que nous puissions voir l'avenir, peut-être. Moi, je dis peut-être. Le ciel est devenu clair dans l'avenir, parce que là, dans cette affaire des élections, c'est toute une ingénierie où on peut bien avoir une commission, un directoire compétent, des responsables venus de leur façon, mais avec une administration incapable, imbue de gens pleins d'immoralité, corrompu, donc vous n'allez pas résoudre les problèmes. Du coup, le problème est global, hein, qu'on puisse améliorer la situation au niveau du directoire qui va être installé à Kinshasa, mais aussi qu'on puisse revoir la structure même de la CENI, la nature, les conditions de recrutement des opérateurs, des administratifs qui vont travailler juste depuis les bureaux de vote jusqu'au centre de compilation. Et que la société civile elle-même, qui vient d'entrer, la société civile a toujours été là, elle a une part active dans l'observation électorale, dans la formation des observateurs et des témoins. Et donc c'est à elle qu'incombe la crédibilité des élections. Maintenant, elle est au four et au moulin, donc elle va pouvoir s'assumer. Mais moi, je m'inquiète toujours de la qualité des représentants de la société civile. En tout cas, la société civile est composée de personnes de haute qualité, qui travaillent, qui sont bien formés. Maintenant, est-ce que la désignation de ceux qui vont les représenter à la Commission électorale nationale indépendante va-t-elle produire
est-ce que ça sera fait correctement
les hommes voilà. qu'il faut à la
oui, professeur
faut.
Emmanuel. Oui, professeur Emmanuel. Allô? Oui, professeur Emmanuel, on va encore accorder la parole à d'autres auditeurs qui attendent, qui sont déjà en ligne. Jean-Cy qui est à Lubumbashi et Michel Amatadi. Et nous rappelons à aux auditeurs hein, qui sont sur BlackBerry et qui aimeraient bien nous rejoindre toujours dans Parole aux auditeurs. Voir ces soucis-là. Donc, ils peuvent le faire aussi par BBM. Hein. Notre oui. PIN, c'est le 28 75 76 3B. Voilà. Jean-Cy, vous êtes à Lubumbashi. Michel Amatadi. Bonjour Jean-Cy. Jean-Cy, vous êtes avec nous. Bonjour Jean-Cy.
Oui, bonjour.
Oui, comment réagissez-vous?
Je voulais parler. On voudrait d'abord mettre M. Ngoulouna dehors. Les pasteurs, on voudrait le mettre dehors. Parce qu'il va laisser beaucoup de confusion. Si nous sommes avec vous, nous
sommes en train de vivre. Jean-Cy. Oui. Jean-Cy, n'entrons pas dans les débats avec des jugements de valeur. Aujourd'hui, le débat tourne autour de la restructuration de la CENI. Ne revenons plus en arrière. Est-ce que vous pensez que cette réforme est pertinente?
Oui, c'est bien, j'accepte. Bon, le problème qui est là, c'est que moi, je voulais dire, on voudrait d'abord M. Ngoimulunda dehors, alors on forme d'autres personnes qui voudraient travailler. Si nous sommes en confusion, c'est à cause de Ngoimulunda.
Oui, on n'est pas dans la formation des gens qui doivent composer les bureaux. Mais c'est vrai, il y a un débat autour d'abord de l'effectif et aussi la question que comme d'autres vos prédécesseurs ont parlé de la partialité ou de l'impartialité de ces membres qui vont composer les bureaux. Voilà, les uns parlent sur les 11 membres que doivent constituer les bureaux. Voilà, le gouvernement propose 8 et l'opposition parle de 8. Donc les députés, il y a certains députés qui ont parlé de 8 membres de la société civile, mais tandis que le projet lui-même prévoit 2 membres de la société civile.
Moi je voulais dire, d'abord, ici chez nous au Congo, ça fait même honte. là-bas, la radio Capi, vous êtes en train d'organiser les débats. Ceux qui ont l'opposition et ceux qui ont au pouvoir, pour s'entendre, c'est très difficile. Ce qu'on fait là, c'est une distraction, on est en train de distraire les gens. Moi, on va réformer la CENI, c'est bien. Mais il faut voir les gens qu'on fait réformer. On va réformer les gens. Peut-être qu'il y a des gens corrompus comme Seko Ngongoulou de ces corrompus.
Voilà, donc vous proposez que ces membres qui vont faire partie du bureau peuvent être formés pour éviter des agréments à la longue. Merci beaucoup, Jean-Cy. Merci beaucoup, Jean-Cy, d'avoir appelé le Lubumbashi. Nous prenons Michel qui est à Matadi. Bonjour, Michel.
Bonjour.
Comment réagissez-vous, Michel?
Oui, c'est Michel Complément. Hein. Je vous appelle à partir de la province du Bas-Congo.
Oui, allez-y.
Alors,
Michel,
nous avons suivi les débats avec attention. Et nous savons que la réplication de ces CENI-là, l'avenir de la RDC, son avenir dépend de ces lois. Alors, notre souci, c'est ceux qui sont dans l'opposition, c'est ceux qui sont dans la majorité et la société civile, puissent se mettre ensemble pour viser l'avenir soit meilleur. Parce que la bonne démocratie commence d'abord avant tout par les élections. Et nous avons vu tout ce qui s'est passé. Et notre souci, c'est que ce qui s'est passé ne revienne plus. Moi, mon problème, ce n'est pas le nombre, les quotas, mais la crédibilité et la confiance. Mes frères, nous avons vu ce qui s'est passé. Dans ces bureaux, il y a eu le fils-là, les membres de l'opposition. Pendant qu'en Afrique du Sud, on voyait les fraudes s'organiser. Mais dites-moi, est-ce que vous avez vu Joly dénicher même une de fraude? Non.
Oui, oui, Michel, ne citons pas les noms. Michel,
s'il vous plaît.
Oui, Michel, il en vaut aussi pour d'autres auditeurs qui vont intervenir tout à l'heure. Hein.
Oui,
ne citons
alors,
pas les noms. Ne versons pas dans les jugements des valeurs. Donc, voilà. Dépassionnons les débats. Michel, s'il vous plaît.
Il y a tellement un homme comme tu sais qui doit être incontournable.
Michel, s'il vous plaît.
C'est quelqu'un qui a encore la confiance de sa base. Et nous devons suivre cet homme. Il a la vision.
Michel, on n'est pas, on fait pas de propagande des gens, donc c'est comme je l'ai dit. Il en faut aussi pour d'autres auditeurs qui vont intervenir tout à l'heure. Donc ne versons pas dans les jugements des valeurs, ne citons pas des noms et ne parlons pas pour tel ou tel autre camp. Donc restons dans les débats. Les débats tournent autour de la réforme de ce bureau. Si, selon vous, elle est vraiment pertinente, nous prenons le député Willy qui est en ligne. Donc Willy qui est en ligne, Makia, voilà, qui est en ligne. Bonjour, l'honorable. Bonjour, honorable Willy.
Bonjour.
Voilà, vous êtes en ligne. Selon vous, cette réforme est-elle pertinente?
Mais la réforme est vraiment pertinente. Pourquoi ne doit-elle pas l'être? Parce qu'elle a été réclamée après l'évaluation telle que tout le monde l'a suivie de la CENI par l'Assemblée nationale. Toutes les recommandations de l'opinion de tout le monde avaient été abordées dans ce sens-là. Mais ce que je voulais dire, c'est que il y a pas longtemps, les auditeurs, celui de Kanangashkwa ou de quelque part, a dit qu'il y avait l'antériorité et qu'il fallait faire prévaloir par rapport à la proposition de loi déposée par les collègues Emery Okundji et qu'on a privilégié les projets de loi du gouvernement. Des faussetés comme ça, lorsque ça passe dans l'opinion, c'est pas bon. Nous avons des lois et des règlements qui régissent le fonctionnement des institutions. À cet effet, il est clair, nous avons mené un débat avec les collègues Okundji sur les antennes de la radio Okapi. Nous avons clarifié que il n'y avait pas que l'antériorité était un des critères, suivi de la qualité du texte. Et ça ne s'arrêtait pas là. Il s'avère que les projets du gouvernement au terme de la loi n'est subi aucune autre procédure. C'est la Constitution qui l'institue ainsi, entérinée par le règlement intérieur. Lorsque le gouvernement soumet un projet de loi à l'Assemblée nationale, et celui-là est directement transmis en plénière pour les débats. Alors que la proposition de loi d'un député, en l'occurrence de celle du collègue Okundji, passe par beaucoup de procédures. Les bureaux d'études de l'Assemblée nationale scrutent cela, et les bureaux d'études avaient relevé des écueils, nous l'avons dit, avait relevé des écueils. Après quoi, on a retourné la proposition aux collègues qui devraient l'enrichir.
Honorable Makiachi.
Pour 15 jours.
Honorable Makiachi. Donc, si je comprends bien, c'est vrai que le règlement d'ordre intérieur prévoit l'antériorité, mais tout en ouvrant une brèche sur la qualité même de ce projet que propose un député ou encore le membre du gouvernement. Et jusqu'à preuve du contraire, les procédures ont été suivies normalement. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a décelé que par rapport à la qualité, fallait opter pour le projet du gouvernement.
C'est exact. Le collègue Okunji l'a reconnu au débat avec nous sur vos antennes, qu'il lui avait été retourné le texte pour retouche. Mais pendant ce temps, après ça, il devrait l'envoyer au gouvernement pour
donc,
un
là,
maximum de 15 jours.
À ce niveau-là,
il était en retard.
À ce niveau-là, la notion d'antériorité est tombée.
La notion d'antériorité tombe.
Voilà.
Tombe au devant de celle de la qualité et du nombre, du nombre de la durée, disons, de 15 jours pour aller au gouvernement. Et c'est la constitution qui fait ça. Et lorsqu'on dit que l'opposition est en train de demander qu'à ce qu'il y ait 8 membres et à la CENI, et la majorité, mais non, mais ça vient d'où cela? Ça vient d'où? Quelle opposition qui a soutenu qu'il y ait 8 membres et les autres ont dit non? Et quelqu'un venait de dire que c'est pas le nombre qui fait l'impartialité ou la partialité, c'est la qualité de ceux qui travaillent sur les plans comportementaux, sur les plans moraux. Donc il faudra pas qu'on fasse passer des choses dans l'opinion comme si il y a un camp des anges et un camp des diables. Non, il y a les Congolais qui sont des représentants du peuple. Et lorsqu'on amène des faussetés sur des antennes pour dire certains ont dit oui, d'autres refusent, cela n'est pas vrai. Moi qui parle, je suis membre de la commission politique, administrative et juridique, autant que les collègues Okunji.
Donc la notion de la terrorité tombe au profit de la qualité et l'honorable Okunji l'a reconnu. Merci d'avoir éclairé l'opinion des auditeurs qui intervenaient tout à l'heure. Merci l'honorable député. Nous prenons Emmanuel qui est à Isiro. Bonjour Emmanuel.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour monsieur l'invité.
Alors selon vous, cette réforme est-elle pertinente?
Écoutez, j'ai appuyé le projet du gouvernement. Mais on va augmenter le nombre de la société civile. Ça n'a pas de sens. Et c'est une plénière. Mais ces gens partent en Europe copier les histoires qui, des fois, ne fait pas de comparer avec la situation du pays. Les gens parlent de la CENI. Mais les gens qui en ont abusé, ce sont les députés qui ont fait circuler la région ici. On a corrompu le personnel de la CENI au lieu de le poursuivre. Moi, je pense qu'il fallait peut-être activer la justice, poursuivre ces gens-là et châtier. Mais on parle de la société civile. Nous connaissons notre société civile. Ce sont des gens qui reçoivent de gauche à droite, qui travaillent pour l'intérêt de l'extérieur. Quelle société civile? Nous, les Congolais, nous ne capitalisons pas nos acquis. La fois passée, on a apprécié M. Labbé partout en Afrique, même en Europe. Mais la population a été décentralisée. Mais voyez, l'expérience de la population montre aussi qu'à la décentralisation administrative, ça va poser problème. Parce que lorsqu'on décentralise, les gens pensent peut-être que non, c'est devenu notre affaire, nous faisons quoi. Alors, il y a eu des tricheries tellement que, bon, restructurons. Nous allons voir encore la suite.
Merci beaucoup, Emmanuel. Professeur Emmanuel Kasongo, comment réagissez-vous?
Oui, d'abord, merci à Willy, l'honorable Willy Mathias, qui vient de nous éclairer sur la question de l'antériorité des deux projets, des projets du gouvernement de la proposition
de l'honorable
Congé. Je crois qu'en tant que député, il a été mieux placé et nous a amené à cet éclaircissement qui nous fait avancer. Mais je pense qu'il faut éviter de tomber dans les tralala, des choses qui ne se justifient nulle part ailleurs. Quand on augmente le nombre
de membres de société
civile dans une structure, est-ce que c'est suffisant pour que ça puisse crédibiliser la structure? Je pense non. Il faut mettre un critérium sévère pour quiconque veut travailler dans cette technostructure qui est le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Mais seulement, il faut se poser la question de la qualité de l'administration de la CENI, de leur base de données et de la relation de la CENI avec les autres administrations, telles que le ministère de l'Intérieur, telles que les services des états civils, des bureaux des communes, ainsi de suite. Aujourd'hui, par exemple, on va encore parler fichier électoral, révision fichier électoral. Mais si on était dans un pays où les bases de données sont claires, où les administrations collaborent bien parallèlement comme horizontalement, on devrait avoir déjà, la CENI pouvait commencer à éliminer les membres, les électeurs qui décèdent sur base de fichiers des communes ou des services de funéraires. Mais tout ça, moi je me dis, nous devons clarifier les rôles de la CENI en tant que structure administrative, la responsabilité de ses agents. Vous voyez par exemple les membres du bureau de la CENI. Mais toute cette administration est une administration composée de mercenaires. Ils viennent travailler pour une période et on les paye, ils s'en vont. Donc, les gens comme ça, ils n'ont pas de scrupules pour se faire des pots de vin. Ils savent qu'ils n'ont pas signé un contrat à durée déterminée. Ils sont pour un contrat à durée déterminée, pardon. Il ne faut pas carrière et donc peuvent gâcher à tout moment. On l'a vu, comme ce que venait de dire l'auditeur de Siro. Emmanuel qui est intervenu à Siro, que parfois les abus sont causés par ceux-là même qui doivent défendre la loi. Hein? C'est quand même difficile et un peu perdre du temps que c'est de se concentrer sur la direction d'un organe comme la CENI au lieu de réfléchir sur la composition de son administration et l'effectivité de ses missions, son travail et ses rapports avec les autres services de l'État. Donc la réforme devrait plus mettre l'accent sur ça. Vous voyez, on peut avoir un seul président de la CENI avec des secrétaires, mais qui font bien le travail que les feraient 10 personnes ou 15 personnes, selon qui ont peut-être des agendas différents. Hein? Alors moi, je demande à la population et à ceux qui vont occuper ces fonctions-là, si sur cette émission, ils pourront s'en souvenir un jour, de ne pas faire de la CENI la transposition des clivages qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale. De ne pas toujours avoir un comportement dialectique raisonnant en termes d'opposition au pouvoir. Quand on fait partie de la CENI, on doit parler un même langage. Parce que toute administration est érigée par le principe de l'unité de commandement. Et voilà un peu ce que je peux dire à ce stade.
081 890 6315 pour participer à cette émission.
Parole aux auditeurs.
Professeur Emmanuel, avant d'accorder encore la parole à une autre série des auditeurs, parce qu'il y a Théophile de Kananga et Jean Focas à Lubumbashi, revenons un peu sur la préoccupation de certains auditeurs tout à l'heure qui soutenaient en fait la proposition de l'instauration d'une assemblée plénière chargée de contrôle, d'orientation et des décisions. Que pensez-vous par rapport à ça?
Oui, là aussi, quand il y a trop de structures, parfois ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la CENI est une technostructure, donc qui doit être caractérisée par son esprit managérial. Si on la met encore dans la structure assemblée plénière, qui devient un organe délibérant, et puis le directeur qui va être un organe exécutif, on alourdit la structure. Moi, je me dis, on a déjà une expérience, nous sommes à la deuxième expérience des élections plurielles et démocratiques, même des élections difficiles. Mais au fur et à mesure que nous allons avancer, on finira par avoir, des gens vont maîtriser leurs tâches, ils vont avoir des moyens de travail importants. Hein. On parle trop de la CENI, mais on ne se pose pas la question sur les ressources et les moyens mis à la disposition de la CENI. Parfois, des choses telles que je viens de dire aujourd'hui, est-ce qu'il y a des bases de données importantes au niveau des statistiques nationales? Est-ce qu'il y a une certaine... la CENI peut-elle travailler en symbiose avec des services publics qui sont impliqués dans la gestion de la population? Tout ça, c'est des tâches sur lesquelles on doit se concentrer, c'est de voir des organes, multiplier les organes de direction, et puis on va tomber dans ce qu'on appelle l'hypercollégialité, la réunionnité. À tout moment, il faut des assemblées plénières et consorts. Ça, il faut... moi, je préviens ces dangers-là, quoi.
Oui, ben, professeur, analysons un peu le propos lors du débat à l'Assemblée nationale d'un député qui a conseillé d'éviter donc l'interférence ou mieux le conflit de compétences entre les dirigeants de la CENI. Comme vous venez de le dire, trop de structures, ça risque d'alourdir un peu le système ou les mécanismes. Alors, il propose que, au fait, il recommande de recruter, suite à un appel d'offres, deux experts en lieu et place du deuxième rapporteur. Premier et deuxième rapporteur.
Oui, c'est un choix. Hein. On peut recruter un expert et limiter ses compétences à l'appel d'offres. Je crois qu'on a un expert qui a été recruté sur base d'un concours. Il peut facilement se donner à son travail et savoir qu'il est toujours remplaçable et un autre concours peut être organisé. Que d'avoir des gens qui s'appuient sur ce qu'ils proposent là-bas à leur parti politique ou leur famille politique. Tant qu'elles n'ont pas décidé de son éjection, ils restent et font ce qu'ils veulent.
Théophile, vous êtes à Kananga, Jean Focas à Lubumbashi. Bonjour Théophile et bienvenue.
Bonjour, je vous remercie pour m'avoir accordé la parole. Avant d'intervenir, je voudrais féliciter la rédaction de Radio Okapi pour l'indicatif de notre émission. Je vois, il y a trois personnes qui interviennent. Le premier dit, je suis tout à fait d'accord avec. Le deuxième dit, je refuse totalement. Le troisième dit, considérant les deux, on peut. Donc, vous voyez, ça donne l'idée de ce que nous sommes au Congo. Nous sommes en train de laisser entraîner par les politiciens, alors que le problème qui est d'actualité, la révision de
la restructuration de la CENI.
C'est une révision qui nous permettra de nous développer. Nous devons accepter la démocratie. Puisque nous sommes des copistes, nous ne voulons pas considérer notre sociologie. Et est-ce qu'on ne peut pas, pour trouver une solution, revenir à notre hymne national, dressant le front, longtemps courbé, prendre par exemple les deux projets de loi, tirer ce qui est important, et l'appliquer dans un projet de loi qui doit devenir.
Oui, Théophile, peut-être que vous avez pris en cours là. Hein. On est revenu, il y a même le député Makiachi qui a éclairé notre lanterne disant qu'aujourd'hui nous n'avons plus deux projets. On a plus deux projets, on a un seul projet.
Oui, j'ai suivi l'honorable qui a intervenu d'ailleurs dans un bon sens. Il y a. Et l'intervenant de tout à l'heure qui a dit que les membres de la CENI sont des mercenaires. Il a dit vrai. Parce qu'on ne peut pas considérer les hommes que les partis politiques et la société civile ambiguë de notre pays ici qui vont désigner. Ils seront les représentants de leur opinion, qui n'est pas toujours l'opinion de la population. Donc, à mon avis, il faut qu'on revienne, ça c'est mon point de vue, qu'on revienne à l'organisation des élections dans d'autres pays où nous avons copié la démocratie. C'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Pourquoi le ministère de l'Intérieur? Parce que le professeur vient de le dire, il y a les services de l'État qui maîtrisent les statistiques de la population, qui maîtrisent le fonctionnement de l'administration publique. Donc, si on prend les agents de la fonction publique, de l'administration publique qui travaillent dans nos communes, dans nos secteurs, on les initie à l'organisation des élections. Je crois que, bien que certains d'entre eux peuvent avoir leur tendance politique, mais néanmoins, en tant qu'agents fonctionnaires de l'État, ils auront peur de la loi et ils nous amèneront de très bons résultats. Ça, c'est mon point de vue. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'à tout instant, on puisse prendre des mercenaires qui viennent pour représenter leur parti politique, leur société civile politisée, leur église qui n'est pas une église.
Et vous proposez quoi, Théophile? Vous proposez
là,
quoi,
je propose que les députés prennent leurs responsabilités, qu'ils fassent la révolution en revenant à l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur, que les agents et fonctionnaires de l'État de l'administration politique soient chargés de l'organisation du fonctionnement des élections dans notre pays. Je crois que
donc si je comprends bien, Théophile,
une bonne manière de mettre un terme à la politisation de la commission nationale électorale.
Oui, Théophile, si je comprends bien, c'est une façon pour vous de demander aux députés de rejeter ce projet.
Oui.
Voilà.
C'est ce que je veux dire.
Merci Théophile d'avoir appelé des Kananga. Jean Focas, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Radio Okapi, bonjour auditeurs de Radio Okapi.
Comment réagissez-vous?
Je voulais saluer d'abord votre invité pour son intervention brillante là de tout à l'heure que j'ai beaucoup appréciée. Lorsque nous lisons l'histoire de ce pays, lorsque vous demandez si ce projet-là est pertinent ou non, personnellement, j'ai dit que ce n'est pas pertinent. La lecture de l'histoire du pays vous montre que de tous les temps, on avait organisé des élections, mais on n'avait pas une commission électorale nationale indépendante. Ça, c'est un. De deux, lorsque nous disons qu'en y injectant les membres de la société civile, nous pouvons améliorer les éléments, mais les gens ont la courte mémoire. Lorsque nous étions à Sun City, il y avait cette histoire de la société civile. Nous avons une société civile au Congo qui est très mal structurée et dont qui est aussi versatile. Vous comprendrez qu'au départ, on peut avoir des représentants qui peuvent aller pour pouvoir redresser une situation, mais quand ils arrivent à ce niveau-là, je crois qu'ils risquent d'être pire que ce que nous venions de connaître en 2011 et en 2006. Ça, c'est de deux. Alors, des trois, vous allez voir que, toujours en considérant le passé, l'environnement congolais, est-ce qu'il permet que nous ayons des élections vraiment, une commission électorale vraiment crédible et indépendante? C'est difficile, étant donné l'étendue du pays, étant donné la démographie, étant donné aussi les infrastructures et tout cela. Vous comprendrez que nous qui avons été dans l'observation des élections la fois passée à l'intérieur du pays, ce que nous avons vu, bon, est-ce qu'on l'a dit, est-ce qu'on l'a pas dit? Mais c'est difficile de pouvoir le dire, mais je vous dis qu'il y a beaucoup de difficultés. L'éditeur de tout à l'heure peut avoir raison. L'histoire de la Commission nationale électorale nationale indépendante, c'est un passe-temps. Il faut laisser tomber cette histoire. Il faut laisser tomber cette histoire-là, chercher d'autres mécanismes. Aux États-Unis, par exemple, en France, ils n'ont pas une commission électorale. Ça, c'est une invention purement africaine. Alors, pour nous, ici, étant...
Oui, Jean Focas, s'il vous plaît, Jean Focas, dans quelques instants, on va devoir proposer les bulletins d'information. Si vous pouvez rester en ligne pour faire vos propositions, et nous profitons d'ailleurs pour rappeler à nos auditeurs, en tout cas vous qui nous rejoignez à peine, vous pouvez également nous faire parvenir vos préoccupations à notre courriel pa@radiocapi.net ou composer carrément les 081-890-63-15.
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Alors on poursuit avec Parole aux auditeurs. On avait gardé en ligne Jean Focas de Lubumbashi pour qu'il nous fasse ses propositions. Jean Focas, vous êtes en ligne? Vous êtes encore avec nous? Jean Focas, vous êtes avec nous?
Effectivement, je suis en ligne.
Voilà, on était dans la phase de propositions. Quelles sont les propositions que vous faites en ce moment?
Oui, disons que les propositions, je commencerai par terminer l'idée que j'avais là.
Oui, allez-y.
L'honorable député est passé, il est passé avant moi là.
Oui, honorable député Makashi Willy.
Ils savent ce qu'ils font au niveau du Parlement avec l'histoire éternelle de l'opposition et majorité. Ça, on s'en passe nous. Mais disons que quelles sont les propositions à faire? En réalité, s'il faut garder cette commission électorale nationale indépendante, il va falloir que nous puissions la retourner plutôt au ministère de l'Intérieur, comme les prédécesseurs l'ont dit. Mais personnellement, j'estime qu'elle n'est pas nécessaire. Il y a moyen de trouver de nouveaux mécanismes pour que, à ce niveau-là, de la haute politique du pays, qu'il n'y ait pas des gens qui s'enrichissent d'une manière illicite et qui sont à la solde des politiciens, mais que nous ayons des élections qui sont crédibles. À ce titre-là, nous allons nous attirer le respect à travers les concerts des nations en Afrique et dans le monde. Pas au niveau de ce que nous avons vu les deux mandatures passées. Et il va falloir vraiment et constamment trouver de nouveaux mécanismes qui peuvent nous crédibiliser. C'est ça mon opinion, je pense.
Merci beaucoup, Jean Focas. On donne la parole à Emery Okundji, honorable Emery Okundji, qui était d'ailleurs l'auteur de la proposition, qui nous suivait en tout cas à partir de chez lui, et qui a suivi les débats depuis le début. Honorable, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez souhaité participer à ces débats également, parce que vous avez suivi les uns et les autres. Peut-être vous pouvez nous apporter quelques éclairages. Selon vous, cette réforme était très pertinente hein, par rapport à votre proposition. Ben alors, aujourd'hui, c'est vrai, nous avons suivi par rapport à l'antériorité. Votre projet a été, par rapport à la qualité, selon les propos de l'honorable Willy Makashi, a été rejeté et vous avez été
informé par rapport à ça. Le débat autour de cette question, quelles ont été vos propositions d'ailleurs dans votre projet et qui ont été rejetées par rapport au projet du gouvernement?
Merci beaucoup pour la question. Je suis un élu du peuple. Lorsqu'on est élu du peuple, on ne doit pas tromper ceux-là qui vous ont élus. On doit leur dire la vérité parce que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira un jour par apparaître. Ma proposition en ce qui concerne la qualité, donc le texte le mieux élaboré et l'antériorité, j'ai rempli toutes ces conditions. Et d'ailleurs, les avis du bureau d'études de l'Assemblée nationale l'attestent. Mais pour des raisons politiques, ma proposition a été récalée au profit du projet de loi. Mais en regardant ce projet de loi aujourd'hui, article par article, nous constatons que c'est un travail qui n'a pas été bien fait. Nous constatons que c'est un travail qui a été fait dans la précipitation, contrairement à ma proposition de loi. Bon, là n'est plus le débat. Revenons à l'essentiel.
Oui.
Vous savez que nous réformons, il faut que nous puissions nous poser la question. Pourquoi nous réformons? Pourquoi nous restructurons la CENI? Eh bien, c'est par rapport à l'expérience négative du passé. Et lorsque nous réformons, nous n'avons plus droit à reprendre les mêmes erreurs. Nous devons faire une rupture avec le passé, surtout dans ses aspects les plus négatifs, et apporter quelque chose, apporter les innovations comme nous l'avions fait dans notre proposition de loi, en tenant compte des analyses des candidats, des partis politiques, des observateurs tant nationaux qu'internationaux, de la société civile, après, au lendemain du scrutin du 28 novembre 2011. Et nous avions proposé notre proposition en fonction de cela. Et qu'est-ce que nous apportons comme innovation dans notre proposition de loi? Nous avions vu les limites d'une CENI avec un seul bureau. Nous disons un seul bureau qui était l'organe de conception, l'organe d'orientation, l'organe de décision, d'évaluation et même de contrôle. Et nous avions vu les limites. Nous avions vu les limites de cette CENI avec un seul organe. Nous proposons qu'il y ait tout au plus deux organes, au moins deux organes, la plénière et le bureau. La plénière sera constituée des membres de la CENI qui sont au niveau des provinces et du bureau. Donc on n'aura pas des gens qui vont chômer et qui ne viendront qu'à la plénière en session pour siéger. Non. Ce sont les représentants provinciaux au niveau de la CENI et les membres du bureau qui vont constituer la plénière de l'Assemblée nationale. Et pourquoi nous voulons la plénière? Eh bien, nous voulons la plénière pour qu'il y ait contrôle. Contrôle, ce n'est pas seulement au niveau des finances. Il faut qu'il y ait aussi contrôle dans le processus. Puisque vous savez, toute élection démocratique repose sur des piliers fondamentaux. Le consensus national et la transparence. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir ce consensus national et la transparence dans la gestion du processus électoral. Et voilà. De deux, vous savez que la CENI actuelle, le bureau actuel de la CENI n'était composé que de deux composantes. L'opposition et la majorité. Nous, dans notre proposition de loi, nous introduisons la société civile comme troisième composante en plus de la majorité et de l'opposition. Dans notre proposition de loi, nous disons que les membres de toutes ces composantes seront désignés de manière démocratique et autonome par leurs composantes. Dans notre proposition de loi, puisque nous sommes dans un pays continent, et vous aviez dû remarquer l'insuffisance d'avoir des témoins à travers les territoires nationaux par les partis politiques, comment nous remédions à cela? Nous disons que dans toutes les structures de la CENI, au niveau de la plénière, au niveau du bureau, au niveau des secrétariats exécutifs provinciaux, au niveau des secrétariats exécutifs locaux, au niveau du bureau de vote, des bureaux, donc dans toutes ces structures, il faudrait que la répartition se fasse en tenant compte de trois composantes, l'opposition, la majorité et la société civile. De cette façon, on règle de manière durable cet épineux problème des témoins. Vous aviez dû remarquer comment les finances de la CENI ont été gérées. De gré à gré, 3 millions de dollars américains, sans aucune justification. Nous disons non, les choses ne doivent plus se faire de cette manière. La CENI doit respecter, doit faire passer ses marchés en faisant un appel d'offres et se conformer à la loi relative au marché public. Nous avions dû remarquer comment le président de la CENI prenait les décisions en marge même de ses collègues du bureau. Voilà. Et il y a tant d'exemples qui l'ont démontré. Oui. Dans notre proposition, nous disons le président de la CENI ne peut agir que dans les limites lui fixées par la plénière.
Oui, honorable.
Voilà, en grosso modo, quelques innovations que nous amenons dans notre proposition de loi.
Voilà,
puisque nous voulons mettre une rupture, avec le passé, surtout dans ces aspects les plus négatifs. Mais le projet du gouvernement, c'est une continuité, j'espère, qui sera amendé pour qu'on puisse, mettre fin aux antivaleurs et qui ont émaillé le processus électoral dans notre pays.
Mais voilà, il y a, honorable Emery Okundji, il y a quand même des points de convergence avec le projet du gouvernement par rapport à votre proposition.
Ah ben, dans les options fondamentales, il y a des divergences énormes. Il n'y a pas de convergence. Le projet de gouvernement prône un seul bureau. Le projet du gouvernement attribue déjà, politise l'organe qui est supposé être neutre en disant qu'on doit tenir compte de la configuration politique de l'Assemblée nationale. Ça, c'est en ce qui concerne les membres du bureau. Le projet du gouvernement veut que le rôle de la plénière soit joué par le bureau. Le projet de gouvernement a beaucoup de lacunes. Le projet de gouvernement attribue des pouvoirs excessifs au président de la CENI.
Voilà, merci.
Et donc,
pour
ne prendre que quelques exemples parmi tant d'autres, vous comprenez que le projet et la proposition, en tout cas en ce qui concerne les options fondamentales,
divers. Merci beaucoup, honorable Emery Okundji. Le temps nous fait défaut. On ne peut pas, parce que là, petit à petit, on s'approche de la fin de notre émission. On va accorder la parole à notre invité pour conclure cette émission, professeur Emmanuel Kasongo. Vous êtes spécialiste des questions électorales. Vous êtes encore en ligne avec nous, professeur. Voilà, professeur, vous êtes avec nous? Voilà, on va lire rapidement quelques correspondances qui nous sont parvenues. Il y a Galvani Tiouk à Mbujimaï qui dit la réforme est salutaire par rapport aux événements que nous avons connus en novembre, mais ajouter 11 personnes au lieu de 7 et 12 des postes pour la société civile ne signifie pas qu'il y a du sérieux maintenant, car nous avons un problème d'hommes au Congo. En plus, le gouvernement ne peut jamais se trahir. Donc l'objectivité dans le choix des animateurs s'impose et le contrôle n'est pas un aspect à négliger pour cette nouvelle structure. Cédric, il est là de Mbandaka, dit restructurer la CENI, ce n'est pas mauvais, mais ce qui est important est d'avoir les dirigeants qui seront incorruptibles. Franck Abeli, Mwangu, de Goma, restructurer la CENI est une bonne chose, mais les Congolais n'ont plus confiance en elle. Rodrigue Kalumendo, de Butembo, je pense que la réforme est importante, mais il faut qu'elle réponde à l'aspiration des Congolais. Nous avons besoin de gens dignes et forts. Voilà. Et on termine avec Emmanuel Boudas, l'impresario. Il faut que la CENI rende l'établier pour bien corriger les erreurs du passé.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Merci à tous d'avoir participé à ces débats. Merci également à Guy Manzangou qui a assuré la mise en onde de cette émission. Titi Mboutou et Piro et Lameji l'ont réalisé. J.R. Lungembo vous l'a présenté sous la supervision de Nicole Ngaka. Réécoutez cette émission sur www.radiocapi.net. L'État congolais a autorisé la construction de 1000 logements sociaux sur une partie du site de la foire internationale de Kinshasa. Selon le ministre de l'économie et le directeur général de la FIKIN, ces logements seront constitués de 800 appartements et 200 villas. Parole aux auditeurs, se penche sur cette question dans son programme de demain. La question au cœur du débat, pensez-vous que ces projets pourraient améliorer les conditions d'accès à l'habitat en RDC? Pour participer au débat, inscrivez-vous déjà et faites-nous parvenir à l'adresse pa@radiocapi.net. À très bientôt.